Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
Le Brésil des telenovelas.
Copacabana, quartier de Rio. À côté, un décor des années 50. Un peu plus loin, une ville amazonienne du 19e siècle. Nous sommes à Projac, les plus grands studios audiovisuels d'Amérique du Sud. Un studio pour chaque telenovela en cours de tournage.
Avec ses 10 studios, Globo à elle seule a produit 2500 heures de telenovelas, sans compter les mini-séries. Ces 4 grands rendez-vous autour de 18, 19, 20 heures et de 22 heures exigent quotidiennement de la fiction fraîche. Les telenovelas, grands produits d'exportation, en sont venus à exprimer la brésilianité à l'extérieur. Et pourtant, elles racontent un Brésil de fiction. Quand elles prirent leur envol, régnait une dictature militaire qui dura tout de même plus de 20 ans. Il était beaucoup de thèmes qui ne pouvaient être traités. Aujourd'hui, les scénarios ont beaucoup évolué en apparence, mais il reste une censure, c'est celle du public. Une alliance inconsciente se trame entre lui et la production qui écarte certains sujets ou bien impose un traitement convenu. Ainsi, la vie politique n'est-elle plus interdite de représentation, mais il n'est possible de la décrire que négativement. Les élus qui sont montrés n'entrent dans la carrière qu'à la recherche de bénéfices personnels et finissent évidemment corrompus jusqu'au cou. Dans la réalité, d'ailleurs, 60% des parlementaires, ceux-là même qui participent actuellement à l'impeachment de Dilma Rousseff, ne sont-ils pas susceptibles d'être visés par des enquêtes de justice? Où est le pays réel? Où est la fiction?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Erika Thomas, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui a publié à l'Harmattan l'ombre de livres sur les écrans petits et grands du Brésil. Vous venez du Nord-Est, là où le cinéma nouveau, je pense au grand Glauber Rocha, décrivait la misère et l'injustice qui régnait. Vous êtes né au moment où Glauber Rocha a dû songer à s'éloigner du Brésil.
Tout à fait.
Et où le cinéma nouveau a été remplacé par la telenovela qui s'envole pendant l'époque de la dictature. La dictature, c'est 64-85 au Brésil.
Tout à fait. Moi, je suis née en 64, puisque vous me tendez la perche hein, pour dire à quelle époque je suis née. Effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que les telenovelas, elles s'envolent avec la dictature, parce que Globo, TV Globo, a été fondée au lendemain du coup d'État en 1965, et que Globo a été le porte-parole des militaires. Donc, ça a été l'ascension fulgurante d'une chaîne de télé. Globo, c'est un conglomérat médiatique, une ascension fulgurante donc de la télévision, avec ce produit phare qui drainait déjà à l'époque une partie très importante de ce budget, près de 50% du budget, aujourd'hui c'est près de 70% du budget de la chaîne, pour faire donc à l'époque des telenovelas qui racontaient essentiellement des histoires à l'eau de rose, parce qu'il s'agissait de montrer un Brésil apaisé, alors que dans les QG militaires, il y a d'autres choses terribles qui se passaient, mais ce qui était montré dans les telenovelas, les problèmes qui étaient montrés dans les telenovelas, ne pouvaient être que des problèmes sentimentaux. La grande question qui se posait, ce n'était pas la question de la justice, la question de la politique, c'est suis-je aimé? Voilà,
c'est comme ça qu'on a 100% d'audience en 72-73 pour Selva de Pedra.
Selva de Pedra, jungle de pierre.
J'aime bien quand vous le dites en portugais et aussi en français. L'histoire de Chris, qui a tué accidentellement le fils d'un notable de sa petite ville, Simone, sa fiancée, l'a suivi dans sa fuite à Rio. Mais le comportement rocambolesque de Chris à Rio pousse Simone, qu'il a abandonné au désespoir, et Christiana, qui a remplacé Simone, mais il l'a abandonné à son tour à la folie. Au fond, il n'aime quand même que Simone. Mais Simone, va-t-elle vouloir de lui? D'ailleurs, est-ce encore Simone qu'il retrouve, ou bien le double de Simone? Je pense que tout le monde a parfaitement compris. Il y a toujours plusieurs trames hein, dans une telenovela. Et ainsi, on arrive au 243e épisode où Chris et Simone vont se retrouver.
Mais c'est J'ai cru que je ne te reverrais jamais.
J'ai cru que j'allais te perdre.
Dis-moi que c'était un cauchemar.
Tu as tellement souffert par ma faute.
C'est fini, je ne peux plus penser à ce qui s'est passé.
Peux-tu imaginer ce que j'ai ressenti? Mon désespoir tous ces jours sans savoir ce que tu étais devenu.
Et moi je me disais, il sera jugé, je n'arriverai pas à temps, il sera condamné. C'était la pire des tortures.
Mon sort m'était égal. Quel qu'il fût, ça m'était égal. Je ne pensais qu'à toi, je ne voulais que te voir, je ne voulais que te sentir.
Tu me promets que l'on ne se séparera plus jamais, Chris?
Plus jamais, plus jamais, plus jamais, mon amour, plus jamais.
Il paraît que les feux de l'amour doivent un peu, Sylvain Despedra.
Alors, je vais, très franchement, je ne pense pas. Parce que vous savez, très souvent, on compare donc les telenovelas brésiliennes à des soaps. Hein. Les feux de l'amour, je crois que ça existe depuis 20 ans.
Ça veut dire pas. Ah non, ça existe depuis 73, c'est-à-dire
voilà,
juste
existe
après
depuis, oui, tout à fait. Mais je veux dire, dans la forme, dans le récit, les telenovelas, ce sont des récits. Avec un début, un milieu, une fin. Je pense que les feux de l'amour, je pense que ça existe encore.
Oui.
Donc, il y a vraiment y a quelque chose
deux
de...
deux fois par semaine, depuis le mois de mars.
Donc, les telenovelas, je pense qu'il faut les différencier de tout ce qui est soap, même si, d'une certaine façon, Selva de Pedra, comme les feux de l'amour, elles doivent surtout au mélodrame. Elles s'enracinent dans la question du mélodrame et avec ses problématiques, donc amoureuses, rocambolesques, quand on a suivi ces feuilletons.
Il y a un seul auteur à l'époque.
Tout à fait, Jeanette Claire, c'était une période tout à fait particulière où on ne connaissait pas ce qu'on connaît maintenant. Aujourd'hui, c'est un groupe de scénaristes qui travaille sur les telenovelas. C'est un groupe de scénaristes qui fait évoluer l'histoire en fonction des groupes de spectateurs qui vont évaluer la telenovela au fur et à mesure de sa diffusion. À l'époque, Jeanette Claire, c'était vraiment la grande dame de TV Globo. Elle avait le droit de vie et de mort sur ses personnages. Elle régnait en maître absolu. Et ce sont ces époques, les années 70 jusqu'au début des années 80, où on avait cette audience qui était fulgurante. On avait jusqu'à, on dit, 100% pour le dernier épisode de Cerveau
d'Hippète. Le 243e épisode.
Voilà, 243e épisode.
Vous avez partagé un moment chaud.
Voilà, tout à fait. Où on peut dire quelque chose quand même par rapport à ça, c'est que comme dans tous les feuilletons, je pense, jusqu'à l'heure actuelle, il y a quand même quelque chose qui subsiste, même si on a changé un petit peu de registre narratif, c'est la question de l'illusion de l'égalité des chances, est très importante dans tous les feuilletons, et puis la négation des frontières sociales. C'était déjà présent à l'époque, et c'est toujours présent d'une certaine façon
aujourd'hui. C'est-à-dire que par l'amour, on peut accéder à un rang...
L'amour est plus fort que tout.
...qui n'était pas le sien au départ.
Tout à fait.
Puisque vous évoquez les productions récentes, en voici une, Avenida Brésil, qui date de 2012.
Tout à fait.
Et on va retrouver les mêmes constantes. On en a une traduction française, ça a été diffusé dans notre pays. Les telenovelas sont des produits d'exportation. Et en France, surtout dans les départements d'outre-mer,
voilà,
par le biais de Françoise. Voici une coiffeuse qui s'appelle Carmina. Et elle est en train de regarder à la télé, en même temps qu'elle traite une cliente, l'homme de sa vie, c'est Tufão, le footballeur immensément connu et déjà très riche et qui... peut-être voudra bien l'épouser.
Tifon, s'il vous plaît, Tifon. Une question, Tifon. Qu'est-ce que vous attendez du match d'aujourd'hui?
Mon seul souhait, c'est d'arriver à donner le meilleur de moi-même sur le terrain de jeu. Vous nous avez préparé quelque chose de...
Ce produit pour lisser mes cheveux donnera quoi, Mona Lisa?
Toutes mes clientes qui l'ont essayé sont satisfaites du résultat.
Tu veux bien regarder ce que tu es en train de faire? Attention, tu vas m'en mettre partout.
Oh, pardon, c'est mon fiancé qui est interviewé à la télé.
Comment, c'est toi la fiancée de Tifon?
Oui, c'est moi.
Quelle chance, Mona Lisa. Oh, c'est bien. Ah, Mona Lisa, ma cocotte, réveille-toi. C'est pas parce que ce garçon t'a invité plusieurs fois à dîner que tu dois en conclure qu'il a forcément envie de t'épouser. C'est vrai.
Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble au cas où tu l'aurais oublié. C'est beaucoup plus sérieux que tu ne le crois.
Lors de votre carrière professionnelle, vous avez d'autres projets dans l'immédiat?
J'ai l'intention de me marier d'ici peu de temps.
C'est une nouvelle extraordinaire. Vous avez déjà décidé d'une date?
Oui, le mois prochain, si tout va bien.
Et où passerez-vous votre lune de miel?
À Cancun. Les billets sont dans ma poche.
De quel mariage il parle? Je suis pas au courant, moi.
Ah, ça y est, tu commences à retomber sur terre, ma cocotte.
Non, non, Tifon ne va pas se marier. Il m'en aurait touché un mot, je suppose.
Mona Lisa, je comprends très bien que tu sois déçue, mais occupe-toi de moi. Je risque de me retrouver avec des trous dans le crâne depuis tout le temps que tu me l'as mis, ça, là.
Sera-t-elle vraiment déçue, Carmina? Carmina, que la cliente appelle Mona Lisa, mais c'est bien Carmina,
c'est bien Carmina,
vous confirmez.
Tout à fait, je confirme.
Mais il y a toujours des processus de substitution des personnages qui deviennent doubles.
Alors, c'est ce qui est très intéressant avec cette telenovela que j'ai découvert, moi, dans une chambre d'hôtel en Bolivie. Je me suis rendu compte que la Bolivie était captivée par ce feuilleton. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait au Brésil. Et ce feuilleton-là a eu énormément de succès. Et partout, on en parlait comme une œuvre de rupture. Parce que tout d'un coup, il y avait ce qu'on appelle la classe C, la classe moyenne, on va dire inférieure, qui était représentée d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Il y a eu au niveau des réseaux, les gens parlaient tout le temps de ce feuilleton. En fait, quand on analyse, on se rend compte que les grands thèmes propres aux telenovelas, en particulier la question de la vengeance, parce que c'est l'histoire d'une vengeance, finalement, cette telenovela, la vengeance, la question de l'usurpation d'identité, la question du double, tous ces ingrédients qui font la telenovela, enfin les principes organisateurs, finalement, narratifs de la telenovela, sont tout à fait là. Il n'y a pas plus de nouveautés que ça. Et puis, comme toutes les telenovelas, le happy end est toujours au rendez-vous. Les méchants sont punis, les gentils sont récompensés, ils sont bien identifiés, bien stéréotypés.
Oui, enfin, qui est méchant vraiment? Parce que il y a plusieurs trames. La substitution, le double, la vengeance. Tufao, peut-être celui qui mérite qu'on déclenche une vengeance, parce que si gentil qu'il apparaisse, il a renversé quelqu'un en voiture et l'a tué.
Je vois que vous avez mieux suivi que moi le feuilleton.
Non, mais ça, c'est juste le début. Ce sont les premiers épisodes. Après, je suis un peu perdu.
En fait, c'est surtout l'histoire de la vengeance d'une petite fille qui a été abandonnée et qui va donc grandir, et qui va s'installer dans la maison de Carmina devenue riche, grâce à Tufao, et qui va faire comme si elle ne la connaissait pas, alors même qu'elle a été abandonnée par Carmina. C'est surtout dans la relation entre les deux femmes, en fait, qu'il va vraiment y avoir un processus de vengeance.
Mais à mesure que le temps avance et que le champ des scénarios s'élargit, quelle place va être faite non seulement à la classe moyenne C, mais aux Indiens, qui vous intéressent beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé sur les anéantis et leur invisibilité médiatique. Aux esclaves ou aux descendants d'esclaves, ça apparaît quand dans les telenovelas?
Alors en fait, le problème justement des telenovelas, c'est que lorsqu'on les regarde, je pense que c'est Spike Lee qui avait dit au Brésil, il y a quelque temps quand il était au Brésil, que quand on regardait la télévision brésilienne, on avait vraiment l'impression d'avoir un pays uniquement de blancs. Il y a très peu de noirs, il n'y a pratiquement pas d'indiens, si ce n'est des caricatures d'indiens dans les telenovelas. Et la question de la représentation du noir, si elle est prise en charge par les telenovelas, elle est surtout prise en charge dans le débat qu'il peut y avoir par rapport au racisme qui existe dans la société brésilienne. Mais les Noirs, en général, sont toujours cantonnés à des rôles secondaires. Quand ils sont présents, ils sont associés soit à des bidonvilles, soit à une telenovela historique qui vient raconter justement l'époque de l'esclavage. Il a fallu attendre 1976 pour qu'il y ait un premier personnage noir de classe moyenne représenté dans une telenovela. Mais chose très étonnante, ce personnage était coupé de son groupe, c'est-à-dire c'était un psychiatre, mais il n'y avait pas de relation. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour qu'on représente une famille noire de la classe moyenne dans une telenovela.
Et à cette même date, 76-77, dans une telenovela qui parle d'abondance de l'esclavage, l'héroïne, une esclave, sera en fait une esclave blanche,
Lucélia
quasiment
Santos,
blanche.
Tout à fait, Lucélia Santos, qui est une actrice blanche.
Et c'est, donnez-moi en portugais le titre de...
Escravizaura.
Voilà. Nous sommes ici sur un marché aux esclaves où le commandeur qui possède l'esclave Isor, la blanche, fait son choix pour élargir son cheptel.
Santa, 21 ans, un corps fin, stature moyenne, bonne travailleuse, habituée aux travaux domestiques, fait bien la cuisine. Elle a travaillé chez Madame Santana de Moura.
Elle me paraît bonne à toute heure.
C'est une belle pièce.
Tu as de l'expérience dans le service des dames?
Tu réponds quand les seigneurs te parlent?
Oui, Seigneur, je n'ai pas bien entendu.
Que faisais-tu dans la maison de Santa de Moura?
Je nettoyais l'argenterie. Je faisais plusieurs choses. Le ménage dans la maison.
Je pense qu'elle serait bien au service de ma fille, n'est-ce pas, commandeur?
Tu penses l'acheter, n'est-ce pas?
Bien sûr. Pour l'instant, elle me semble la plus appropriée.
Alors, dès maintenant, il faut mater son insolence. Les esclaves, mon ami, plus on est dur avec eux, mieux ils travaillent. Et ils ne comprennent qu'une seule langue, le fouet.
Alors Isor, elle est docile, soumise, mais quand même elle rêve à son émancipation. Est-ce que l'émancipation passera par le fils du commandeur, qui la convoite mais qui est un salaud?
Alors c'est...
Par le propriétaire des terres voisines? Par un abolitionniste qu'elle va rencontrer dans un bal?
Alors c'est très intéressant ce que vous posez comme question, parce que vous renvoyez justement la question de l'émancipation à la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'émancipation individuelle qui serait due à justement une révolte. Et autre chose de très intéressant dans ce que vous sous-entendez dans cette question de la rencontre, c'est qu'effectivement Isaur va être l'objet du désir. Et on comprend qu'en fait c'est problématique de représenter la femme comme objet du désir en étant noire ou métisse, puisque dans le livre de Bernard Guimarães, c'est une adaptation, elle est métisse.
Mais elle est
tout à fait blanche. C'est l'actrice Lucélia Santos qui est tout à fait blanche. Et donc on voit bien que, alors que les noirs représentent plus de 50% au Brésil, on s'autodétermine. Plus de 52% de la population brésilienne se considère comme noire ou pardo, cette couleur qui est intraduisible en français. Ils ne sont pratiquement pas représentés dans la telenovela.
Enfin, tout de même, la telenovela en 76-77 en disait plus long que les manuels d'histoire officielle du régime militaire de l'époque.
Tout à fait, on était dans la période de la dictature. Vous savez qu'on ne pouvait même pas montrer... Toujours à propos de cette telenovela Esclavizaur, on ne pouvait pas associer même le terme torture au noir qui était fouetté. Hein, Gilberto Braga, l'auteur de la telenovela, avait été appelé plusieurs fois justement par les censeurs. Il devait réécrire parce qu'il fallait surtout pas qu'on fasse un rapprochement entre la torture qui était infligée aux Noirs et la torture que subissaient justement les opposants politiques d'alors.
On est maintenant sous le premier président élu démocratiquement, Collor. Nous sommes en 1992, avec une telenovela qui a été diffusée sous forme de mini-série plutôt que de très longs feuilletons de 100 ou 200 épisodes. Le titre, c'est Agnos Rebeldes. Jeune fille blonde danse avec un homme noir dans une boîte de nuit. Son père va l'invectiver. Sa mère presse le père de se calmer. Et voilà que la fille, pour se défendre, évoque les droits de l'homme et une loi qui vient de sortir qui sanctionne la discrimination, la loi Alfonso Arinos.
Sendo coisa nenhuma. Havia um clima entre vocês, hein? Então não percebo um clima.
E se houvesse? Fábio, calma. E se houvesse, me diz? Qual era o problema? Vai desrespeitar a lei Afonso Arinos, direitos humanos?
Mais le père ne désarme pas, il n'entend pas que le salon de la famille soit bientôt infesté de petits mulâtres qui voudraient l'appeler papy et sa femme mamie. Alors, la fille traite le père de raciste. Maintenant, c'est à la mère de défendre un peu le père. On ne peut pas demander à un homme de son âge de changer de mentalité du jour au lendemain.
Mas não contemporiza, Natália. Dá asas pra essa louca. Daqui a pouco tua sala tá infestada de mulatinhos, chamando você de vovó e ela sendo a coisa mais natural do mundo.
E não seria? Não, faz favor. Eu quero que você diga aqui na minha cara que é racista mesmo. Que eu acho uma atitude muito mais digna do que racismo velado.
Para com isso, Heloísa. Para com isso. Eu não suporto discussão, principalmente quando não tem o que ser discutido. Vocês não concordam num monte de coisa. Agora, você não vai querer que um homem na idade dele, de uma hora para outra, mude totalmente a visão que ele tem do mundo?
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La telenovela et la politique Erika Thomas a publié un livre sur ce sujet, la représentation du Brésil dans les telenovelas. Je disais que celle-ci date de 1992. Elle date d'une période où le premier président démocratiquement élu après la dictature, Fernando Collor, a été victime, un peu comme aujourd'hui Dilma Rousseff, bien que les circonstances doivent être différentes.
Tout à fait différentes.
D'un impeachment.
Tout à fait.
Et la telenovela et l'impeachment ont eu quelque chose à voir.
Moi, je vois une corrélation tout à fait importante entre cette telenovela, qui a été très importante. Elle a eu une vingtaine d'épisodes, un petit peu plus peut-être, donc une mini-série comme vous le dites, qui représentait pour la première fois ces années de dictature au Brésil, avec des images d'archives, parce que la Globo montrait les archives. Très intéressant de voir que la Globo, qui avait été donc le porte-parole du régime militaire, qui n'avait jamais rien dit sur ce qui se passait à l'époque, sort tout d'un coup des images qu'elle aurait pu montrer alors. C'est presque le retour du refoulé sur cette chaîne. Hein. C'est très intéressant ce qui se passe. Et donc on voit une influence sur ce qui se passe avec Fernando Henrique Cardoso. Pourquoi ? Parce que dans les cortèges, où toute la population, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où toute la population est unie pour demander l'impeachment, la destitution de Fernando Cardoso. Ce qui se passe, c'est qu'on voit des banderoles, j'ai des photos hein, de ça, parce que ça a été l'objet de vastes discussions. On voit des banderoles hein, où il y a écrit « Anus Rebeldes », donc le nom de la telenovela, prochain épisode, destitution de Collor, et puis cette musique magnifique de Caetano Veloso, « Alegria, Alegria », on l'entendait également dans les cortèges. Donc cette telenovela, elle a permis à la jeunesse et à la population brésilienne de se réapproprier la question politique dans l'immédiat, dans le réel, non plus dans la fiction, mais dans le réel.
Bon, parlons un peu où est le réel, où est la fiction.
Oui,
de l'impeachment de 92. Oui. Collor avait battu en 89 Lula, déjà,
oui.
Et il était convaincu de corruption.
Tout à fait. Il était convaincu, donc il y avait quelque chose de très précis qu'on lui reprochait. Hein. Il y avait quelque chose de très précis. Et ceux qui conduisaient l'impeachment ne pouvaient pas être soupçonnés de faire partie eux-mêmes d'un système de corruption, comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors c'est une première différence, et l'autre différence sur laquelle vous insistez, c'est que la société était unanimement contre le président Collor, alors qu'aujourd'hui elle est polarisée.
Tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui se rend compte d'une certaine manipulation aussi qu'il y a de la population médiatique. D'ailleurs, il y a eu un très bel article de João de Oliveira sur Iris, Brésil, la démocratie menacée, il y a quelques temps déjà. Mais je pense que c'est tout à fait intéressant de le lire, hein, où on voit bien, et on voit avec ce qui se passe à l'heure actuelle, que le grand problème qu'il y a, ce qui est honteux, c'est que ceux qui sont censés juger... Cela même, Eduardo Cunha, il a quand même son nom dans Panama
Papers. Le président de la Chambre.
Le président a son nom dans Panama Papers. Et celui qui va remplacer Dilma, si les sénateurs suivent l'écartement,
la procédure d'impeachment,
c'est lui-même est pris dans cette procédure de corruption. On est dans un Brésil de telenovela.
Non. Ah, je croyais qu'on faisait un pas de côté, mais non, nous sommes toujours dans le sujet.
Tout à fait.
Comment la dictature a-t-elle été de plus en plus crûment représenté. Nous sommes ici dans une telenovela de 22 heures qui s'appelle Amour et Révolution. Je vous laisse le dire en portugais.
Amor e Revolução.
Et la jeune femme qui subit la torture, ça pourrait être d'ailleurs la jeune Dilma Rousseff qui a connu en son temps le même sort.
Vous pensez que c'est bien de vivre dans un pays communiste ? Ce n'est pas vous qui réclamez la liberté ? Qu'est-ce que c'est que cette liberté ? C'est ce que veulent les communistes pour le Brésil. Vous voulez tout niveler par le bas. Je ne vais pas vous laisser en finir avec mon Brésil, et tu sais pourquoi ? parce que je hais les gauchistes, je hais les socialistes, je hais les communistes. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends?
Bon, c'est une télénovela de 22h et c'est pas une de celles qui ont eu le plus de succès. Mais enfin, il faut en parler.
Oui, parce qu'en fait, cette télénovela, elle n'a eu aucun succès. Enfin, il y avait eu quoi, 5% d'audience, mais parce qu'elle ne fait pas partie des télénovelas globaux. C'est une autre chaîne, c'est la chaîne SBT. Pourquoi c'est important d'en parler? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu, à propos de cette télénovela, qui n'avait pas d'audience, il y a quand même eu un groupe de militaires qui ont demandé à la censurer, à ce qu'elle ne soit pas diffusée. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que la représentation des militaires était vraiment... n'était pas à leur honneur, évidemment, puisqu'on montrait les atrocités.
On vient de l'entendre.
Voilà, on vient de l'entendre. Et deuxièmement, c'est important d'en parler parce que SBT aussi s'est mis dans cette question, dans cette limite entre fiction et réalité, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque épisode, on appelait un témoin de l'époque et on a eu comme ça José Dirceu, qui a été ministre sous Lula et qui a fait partie de la lutte armée, qui est venu témoigner et qui... Donc on se dit que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel.
Les telenovelas qui ouvrent des dossiers, je fais référence au vieux dossier de l'écran en France. Allez, les tendances récentes à partir de Queridos Amigos, une telenovela de 2008. Ah, vous connaissez par cœur.
Ah, j'adore cette musique, c'est la musique des exilés, ça. Hein, j'adore.
Les grandes tendances depuis les années Lula, depuis les années Dilma, avec une érosion qui menace les telenovelas et en même temps des succès pour certaines d'entre elles.
Tout à fait. Donc en fait, on voit que les telenovelas, elles sont passées en fait d'un engouement inconditionnel de la part du public à un esprit un petit peu plus critique, de plus en plus critique d'ailleurs. Et donc, on se rend compte que les audiences se sont... on va pas dire effondrées, mais elles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Ça, à partir des années 80, 90, ça a été de plus en plus difficile. Mais on voit certaines de nouvelles tendances, en particulier depuis l'année dernière, où il y a eu un feuilleton, une telenovela que personnellement, j'ai vraiment adoré. J'ai suivi tous les épisodes, ce qui est rarissime. Hein. En général, je regarde le début et la fin pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Et je comprends parfaitement, en regardant les quelques premiers épisodes et les quelques derniers. Mais là, une très très belle telenovela, à l'Ain du Tempo, qui avait un dispositif particulier, puisqu'elle se passait au 19e siècle et on retrouvait ensuite tous les personnages au 20e siècle et au 21e siècle d'ailleurs. Et donc, elle était, en quoi est-ce qu'elle révèle une certaine tendance? C'est que je pense qu'elle a renforcé, puisqu'il s'agissait de la question de la réincarnation, l'idée que finalement on est sur Terre pour apprendre, l'idée qu'on mérite son sort, que ce qui nous arrive peut s'expliquer par le passé. En fait, elle mettait surtout en perspective ce que souhaitaient les Brésiliens, étant donné l'audience exceptionnelle qu'elle a eue pour une telenovela de 18 heures. Elle mettait en perspective ce que les Brésiliens attendent de la telenovela, c'est-à-dire quelque chose qui vient les apaiser. Dans un monde qui est de plus en plus complexe au Brésil, où le chômage ne cesse d'augmenter, où la violence ne cesse d'augmenter, où les gens n'ont pas de couverture sociale, où l'inégalité est criante, les gens veulent rentrer chez eux, regarder une telenovela et se dire après tout, j'ai une emprise sur mon destin, si je ne suis pas heureux dans cette vie, je le serai dans la prochaine.
Et si je suis là, dans cette vie, eh bien, je le dois à ce que j'ai fait dans une autre vie, une vie antérieure. Merci à vous, Erika Thomas. Tous vos livres sur les écrans du Brésil chez l'Armatan, le festival Sirimania à Paris, au Forum des Images. Remerciements particuliers à Claudia Galea pour sa participation aux côtés de Franck Olivard à la préparation de cette émission, qui était réalisé par Hervé Marchand avec Lucas Vaillant à la technique.